Je vous remercie d'être ici et nous allons écouter le bonhomme Laurent qui va nous parler d'un sujet certainement qui nous intéresse beaucoup avec notre logique occidentale, les passions. On a besoin certainement de mieux comprendre le Proche-Orient qui n'a pas la même logique que lui. Je vais passer la parole au professeur Barbier qui va présenter notre conférencier.
Eh bien, je suis heureux de présenter Madame Annie Laurent, juriste, mais en même temps de formation, avec un doctorat d'État, ce qui n'est pas rien, nous le savons tous, sur le Liban entre 1943 et 1984, je ne me trompe pas. Oui, mais j'ai eu les dates précises, sur Internet on sait beaucoup de choses, très indiscrètes. Bon, et vous êtes spécialisé dans la géopolitique de ces pays-là, et vous avez écrit beaucoup d'articles, et beaucoup de livres, c'est-à-dire que certains de vos livres sont ici. On pourra les voir après. Donc, on a fait appel à vous, et si l'on parle de temps en temps, dans le monde, qui est le journal de référence, du Proche-Orient, il n'y a pas beaucoup d'articles de fond, c'est souvent très, mettons, événementiel, très factuel, et il est difficile de se faire une idée exacte, et c'est une excellente chance de pouvoir vous demander de venir nous parler. Vous avez prévu de parler, et c'est le texte que j'ai sous les yeux, les clés pour comprendre le Proche-Orient compliqué. Compliqué, on le sait, hein, parce que lorsqu'on cherche à comprendre quelque chose, il faut se rappeler beaucoup de souvenirs, hein, et on n'en a pas assez. Et j'ai appris cette complexité très jeune. Si je peux faire une confidence, du temps que j'étais enfant, à la 6e, à Paris, j'étais dans une noble école tenue par les oratoriens, l'école Vassillon, et j'avais comme surveillant d'études et professeur d'instruction religieuse un révérend père Corquemaz, un maronite. Très bien, alors j'ai écouter les cours, il parlait par conséquent du catholicisme comme il se doit, très bien. Et dans un camp tout, il était là, il a servi d'aumônier, et on m'a demandé de servir la messe. J'ai dit bon. Et on m'a dit, tu as de la chance, c'est un dimanche, il dira sa messe en latin. Alors j'ai appris, j'avais 8 ans, qu'on pouvait dire une messe catholique dans une langue qui n'était pas la langue latine, ce qui est invraisemblable. Bon, alors, me rappelant tout ce qu'il fallait faire entre les servants de messe, j'ai fait le seul, ben, j'ai essayé de suivre la messe. Ce moyen rite qui n'est pas le rite romain. Même s'ils sont très rattachés à Rome, les maronites, on le sait, mais il y a un rite spécial. Alors j'étais complètement perdu. J'avais beau avoir quelques mots de latin en tête, quand était l'invasion, quand était. J'ignorais. Alors pour me rendre utile, de temps en temps, je prenais ma sonnette, que j'activais, je sonnais bien sûr à contre-temps. Vous voyez ce que c'est. Alors, j'ai appris ce jour-là que quand on parlait de cette région-là, il fallait faire très attention et apprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai essayé d'en apprendre depuis, j'en sais pas assez, vous allez m'en apprendre beaucoup. En effet, c'est compliqué. Et là encore, j'ai vu, je ne sais plus où, que ce Proche-Orient est parmi les régions du monde, une des régions si compliquées, que lorsqu'on croit avoir compris, c'est qu'on fond n'a pas compris. Alors, ne croyez pas qu'il fallait désespérer et qu'en sortant de cette conférence, si vous voyez les choses clairement, c'est que vous n'avez pas compris. Pas du tout. Parce que ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'ils n'avaient pas entendu Madame Annie Laurent s'exprimer. Madame Annie Laurent, nous le savons, comme conférencière, une personne d'esprit très claire, qui s'exprime de façon extrêmement nette, et qui refuse la facilité, la simplification, et qui va assez au fond des choses, parce que la réalité étant compliquée. Pourquoi ? La simplifier, on n'a pas le droit. Il faut dire ce qu'il en est. Par conséquent, je suis certain, madame, que nous sortirons de cette séance avec des idées claires et justes. Et d'avant, je vous en remercie, vous avez la parole, madame.
Merci, monsieur. Bonsoir.
Il est allumé ?
Non, prenez celui-là.
D'accord. Merci, et bonsoir à vous tous. Alors, je vais introduire mon propos en reprenant un peu ce que vous venez de dire, mais à partir d'une citation du général de Gaulle, lorsqu'il allait en au Liban, pardon, pendant la Seconde Guerre mondiale, il disait cette phrase bien connue, « Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. » Eh bien, moi, lorsque je suis allée pour la première fois au Proche-Orient, je n'avais pas d'idée du tout, ni simple, ni compliquée. Donc, je suis allée sans savoir du tout ce que j'allais découvrir là-bas. Et donc, pas d'idée préconçue non plus, bien entendu. Mais une fois sur place, j'ai compris que dans cette complexité, plutôt que de simplifier, en croyant que c'était la meilleure façon de faire comprendre les aspects des réalités du Proche-Orient, il fallait les clarifier. En effet, clarifier évite de dénaturer des réalités complexes. Et depuis, telle est ma ligne de conduite intellectuelle. Alors ce soir, je vais présenter des données de base, notamment celles qui ont trait à la géopolitique, mais ne soyez pas inquiets, ce sera très simple, et aussi à l'organisation sociale et religieuse des pays situés à l'Orient de la Méditerranée. Je fais tout de suite une petite remarque, c'est qu'on ne peut rien comprendre aux réalités du Proche-Orient sans prendre en compte cette dimension religieuse et confessionnelle. Alors, je commence par quelques éléments de géopolitique. Alors, on a intitulé Proche-Orient, et il est de plus en plus fréquent d'entendre parler du Moyen-Orient. Alors, comment s'y retrouver? Alors, autrefois, pour cette région du monde dont je parle ce soir, c'est-à-dire les pays de l'Orient arabe, en l'occurrence Liban, Syrie, Mésopotamie, donc l'Irak, la Transjordanie devenue la Jordanie, la Palestine avec Israël, l'Égypte et l'Asie mineure, Turquie et Chypre, on parlait du Levant, du point de vue français, c'était le Levant. Vous comprenez donc toute cette partie. Aujourd'hui, on qualifie souvent cette zone de Moyen-Orient ou de Proche-Orient, mais de manière indistincte, et ce n'est donc pas clair. Alors personnellement, pour ce qui concerne les pays que je viens de citer, le Proche-Orient arabe, l'Orient arabe, l'Orient méditerranéen arabe et l'Asie mineure, je préfère parler de Proche-Orient. Le Moyen-Orient, je le réserve aux pays qui sont au-delà, c'est-à-dire la péninsule arabique et l'Asie centrale, ce qu'on appelait avant l'Asie centrale, l'Iran, l'Afghanistan, pour l'essentiel, ces pays-là. Aujourd'hui, on a l'habitude de parler du Proche-Orient en termes de Moyen-Orient. C'est une appellation anglo-saxonne, et c'est pourquoi, personnellement, je la désapprouve, puisque nous avons notre propre génie. Pourquoi ne pas garder Proche-Orient, comme on l'a fait jusqu'à une époque très récente? En plus, il y a des avantages à parler de Proche-Orient plutôt que de Moyen-Orient, pour la zone définie. C'est que Proche-Orient évoque une proximité géographique, mais aussi une certaine familiarité, et c'est ça qui me plaît, vous voyez, dans ce concept de Proche-Orient. En plus, vous voyez, par rapport au Grand Moyen-Orient, rappelez-vous, il y a quelques années, lorsque George Bush a lancé la guerre en Afghanistan, après les attentats du 11 septembre, il a dit qu'il voulait mettre en œuvre un grand projet géopolitique qu'il a appelé le Grand Moyen-Orient démocratique. Or, ce Grand Moyen-Orient s'étendait du Maroc à l'ouest à l'Afghanistan à l'est. Vous voyez le côté artificiel de cette appellation. Il faut préciser aussi que les pays du Maghreb ne sont pas des pays d'Orient en stricte rigueur de terme. Ce sont des pays d'Occident. Le mot Maghreb veut dire Occident en arabe. Alors le Maghreb, vous savez, donc, il s'agit du Maroc, de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Ce sont des États arabes, mais qui ne sont pas situés au Proche-Orient, bien que, complexité là, c'est vrai, bien qu'ils soient membres de la Ligue des États arabes, la Ligue en question étant formée de 22 États, et elle a été fondée en 1945. Alors, vous voyez, tout le Proche-Orient n'est pas arabe, il faut distinguer ça aussi. Et donc, il ne faut pas confondre, comme on le fait souvent, arabité et islamité. J'ai dit que tout le Proche-Orient n'est pas arabe, il y a la Turquie, Chypre non plus n'est pas arabe, bien entendu, il y a Israël maintenant. Donc, ne confondons pas arabité et islamité. J'ajouterai à ça qu'il y a des arabes chrétiens, en particulier en Palestine et en Jordanie, et puis également dans les temps anciens, en Arabie. Dans l'Arabie de l'Empire romain, qui est la péninsule arabique d'aujourd'hui, ou le royaume d'Arabie saoudite, si vous voulez, il y avait de grandes tribus chrétiennes. Deux ont laissé des traces importantes, les Rassanides et les Larmides. Ce sont des tribus chrétiennes bien connues. Il y avait aussi les Najranites dans le Yémen actuel. Donc il ne faut pas confondre, encore une fois, arabité et islamisé. Alors les chrétiens de langue arabe au Proche-Orient, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais ils ont été arabisés. La plupart d'entre eux ne sont pas des arabes, des chrétiens de souche arabe, sauf ce que je viens de mentionner. Et alors c'est vrai que certains d'entre eux disent « nous sommes arabes », les Palestiniens par exemple, et les Syriens n'ont aucun complexe à se définir comme arabes. Mais dans ce Proche-Orient, il y a des communautés chrétiennes qui récusent l'identité d'arabes. Effectivement, elles ne sont pas arabes de souche. Vous avez parlé des maronites. Les maronites n'aiment pas être qualifiés d'arabes. Ils sont arabisés. J'ai découvert lors de voyages que j'ai effectués en Irak, en particulier dans le nord de la Mésopotamie, les chrétiens de rite assyro-chaldéen. Les Assyriens ne sont pas unis à Rome, les Chaldéens le sont. Mais c'est la même peuplade, si vous voulez. Eh bien, pour eux, il n'est pas question d'être appelés arabes. Et d'ailleurs, leur langue maternelle, en quelque sorte, c'est le sourate, qui est un dérivé de l'araméen, la langue que parlait le Christ. Alors, ils parlent l'arabe, bien entendu, aussi, puisque c'est la langue nationale de l'Irak. Mais de souche, ils ne sont pas arabes et ils n'aiment pas être qualifiés d'arabes. Et c'est la même chose pour les Coptes. Les Coptes en Égypte, en fait, vraiment ne sont pas des arabes. Ils ont été arabisés à partir du 7e siècle lors de la conquête arabo-musulmane. Mais ils ont aussi leur propre langue, bien qu'ils parlent également l'arabe, puisque c'est aussi la langue nationale du pays. Enfin, il faut ajouter aussi les Arméniens, qui sont très nombreux dans le Proche-Orient arabe, en particulier au Liban, en Syrie et en Terre Sainte. Eh bien, ces Arméniens, évidemment, ne sont pas arabes, même si eux aussi parlent l'arabe, mais ils ont avant tout leur langue nationale, qui est l'arménien. On peut ajouter aussi que c'est vrai que la liturgie de ces communautés chrétiennes s'est arabisée, c'est vrai. Non, mais il vaut mieux parler, vous voyez, de chrétiens arabophones ou arabisés plutôt que d'arabes chrétiens, sauf pour ceux de Jordanie et de Palestine. Alors, il faut savoir aussi que pour un musulman, admettre qu'il existe des arabes chrétiens ou des chrétiens arabisés, c'est une donnée qui n'est pas acceptable. Je me souviens, pendant la guerre du Liban, le colonel Kadhafi, chef de l'État libyen, disait aux maronites « Mais proclamez-vous musulmans, il n'est pas possible que vous soyez de langue arabe sans être musulman. Et si vous acceptez de vous reconnaître musulman, eh bien vous aurez la paix. » Alors aujourd'hui, il y a des prises de conscience qui se font au Maghreb. Je fais une petite digression là vers le Maghreb. Depuis que le pape a décidé de nommer des évêques catholiques qui viennent du Proche-Orient. Ainsi, aujourd'hui, il y a 3 évêques de souche arabe. Ils sont vraiment arabes, ceux-là. Monseigneur Toual, qui a été évêque de Tunis et qui est maintenant le patriarche latin de Jérusalem. C'est le membre d'une grande tribu chrétienne de Jordanie, les Toual, donc. Il y a Monseigneur Laham, l'actuel évêque de Tunis, qui vient de Palestine, et Monseigneur Bader, qui vient de Jordanie et qui est l'archevêque d'Alger. Alors, concernant le nombre de chrétiens, disons, dans la zone que j'ai définie comme celle du Proche-Orient, leur nombre est très, très, très peu nombreux. Vous le savez, d'ailleurs, il y a une émigration considérable. Sur environ 290 millions d'habitants, les chrétiens ne sont plus que 15 à 20 millions, toutes communautés confondues. Les plus nombreux sont les Coptes d'Égypte, qui sont environ 8 millions sur 80 millions d'habitants donc dans ce pays. Alors j'ai dit tout à l'heure que les Turcs ne sont pas des Arabes, bien sûr, on peut ajouter les Iraniens, et les Kurdes aussi. Les Kurdes ne sont pas des Arabes, bien que la plupart d'entre eux vivent dans des pays arabes, comme l'Irak ou la Syrie. Mais concernant l'arabité, il y a un point que je voudrais souligner. C'est que c'est une dimension très importante pour tous les musulmans du monde. Qu'ils soient arabes ou non arabes, arabophones ou non arabophones, les musulmans se tournent tous, vous le savez déjà pour la prière, vers les lieux saints musulmans qui sont à la Mecque et à Médine, donc dans une terre arabe. Et c'est une terre arabe qui a servi de berceau historique et géographique à la naissance de l'islam. D'où l'importance considérable du concept d'arabité, concept culturel et religieux, concept d'arabité pour tous les musulmans du monde. Aujourd'hui, les musulmans arabophones ou de souche arabe ne sont que moins d'un quart de la population musulmane dans le monde. Voilà pour quelques éléments de géopolitique. J'en viens maintenant à la sociologie, sociologie politique et religieuse. Je dois d'abord vous parler du confessionnalisme, une question difficile à comprendre pour nos esprits cartésiens, c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce confessionnalisme au Proche-Orient. C'est tout simplement que la laïcité y est une notion inconnue. La région du Proche-Orient se caractérise par une conception confessionnelle de l'État et de la société. Or, ces pays du Proche-Orient sont majoritairement musulmans. Et la doctrine classique de l'islam, dans le domaine politique, veut que l'État soit aux mains d'un ou de plusieurs musulmans, ceci afin de garantir la conformité de la politique de l'État concerné, conformité à la charia. La charia, c'est la loi islamique. La loi islamique qui a deux sources principales, le Coran bien entendu, mais pas seulement, il y a aussi la Sunna, S-U-N-A, qu'on traduit généralement par tradition prophétique, parce qu'elle consiste en... La Sunna, c'est un immense recueil de faits, de gestes, de paroles, voire de silences, attribués à Mahomet, et qui complète ce qui manque au Coran dans le domaine législatif. Donc ces paroles ou ces gestes attribués à Mahomet sont normatifs. Et la charia découle donc de ces deux sources principales, même s'il y a des variantes bien entendu, mais la charia c'est une affaire très complexe. Il y a plusieurs écoles juridiques par exemple, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails-là maintenant. Simplement je présentais le principe de la doctrine classique de l'islam concernant le pouvoir politique, le gouvernement. Ce principe repose d'ailleurs sur une parole attribuée à Mahomet dans la fameuse Sunna. Mahomet aurait dit « L'islam domine et ne saurait être dominé ». Et à ce sujet, je vais donner un exemple. Au début de la guerre du Liban, qui a commencé en 1975, quelques mois après, exactement au mois de septembre 1975, alors que la guerre avait commencé en avril, il y a eu dans la presse libanaise, dans un grand quotidien, Al-Safir, c'est-à-dire l'ambassadeur, un grand article écrit par un dignitaire sunnite libanais, Hussein Kouatli, un dignitaire important, qui a expliqué aux musulmans du pays, du Cèdre, qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre dans ce pays gouverné en majorité par des chrétiens sans être en infraction par rapport à la doctrine classique de l'islam. Et il disait que c'était même contrevenir à la foi, à la religion musulmane. Cet article a fait prendre conscience aux chrétiens libanais de la confessionnalisation du conflit qui venait de commencer. Alors lorsqu'on parle d'État confessionnel, il ne faut pas en tirer la conclusion que l'État en question est forcément théocratique. Ça, on distingue État confessionnel et État théocratique. En fait, aujourd'hui, il y a deux États théocratiques, un seul au Proche-Orient et un au Maghreb. Le seul État théocratique, c'est l'Iran depuis la révolution de l'Ayatollah Khomeini, survenue en 1979. Bien qu'aujourd'hui, ce principe d'État théocratique soit atténué, puisque actuellement, le chef de l'État, Ahmadinejad en l'occurrence, et les institutions qui sont sous son gouvernement, sont aussi sous le contrôle du guide de la révolution. Je veux dire que Khomeini cumulait sur sa tête absolument tous les pouvoirs, religieux et temporels, tandis qu'aujourd'hui, Ahmadinejad partage ses pouvoirs avec le guide de la révolution. Alors en Iran, c'est le chiisme qui est religion d'État, mais on reviendra par la suite sur les questions de chiisme et sunnisme. Je parlais du Maroc parce que c'est intéressant de montrer que dans le monde arabo-sunnite, aujourd'hui, même si ce n'est pas au Proche-Orient, il y a un État théocratique, ça peut vous surprendre, et pourtant le Maroc est bel et bien un État théocratique, mais ce n'est pas forcément péjoratif, bien entendu. Pourquoi je dis ça? C'est que le roi du Maroc est descendant de Mahomet par Ali, par le cousin et gendre de Mahomet, et il est à ce titre-là commandeur des croyants. Ses prérogatives cumulent son ordre temporel et spirituel à la fois. Et vous savez que cette dynastie au Maroc, on l'appelle Alaouite. Alaouite, ça vient donc du nom de Ali, cousin et gendre de Mahomet. À ne pas confondre avec les Alaouites qui gouvernent en Syrie, mais de ça aussi j'en reparlerai. Alors souvent on dit, oui, mais l'Arabie Saoudite est une théocratie. Eh bien non, l'Arabie Saoudite n'est pas une théocratie. Le Coran est certes la constitution du royaume, mais le roi dépend aussi d'un contre-pouvoir qui a les prérogatives en matière religieuse. En fait, l'Arabie Saoudite est le fruit d'une alliance entre Ibn Saoud, le fondateur de la dynastie régnante actuelle, et Abdel Wahhab, un idéologue du XVIIIe siècle, qui a voulu promouvoir le retour à la tradition de ce qu'on appelle les pieux ancêtres, les premiers califes qui ont succédé à Mahomet. Donc c'est un islam extrêmement rigoriste. Mais vous voyez, donc il ne s'agit pas là d'un régime théocratique. Alors donc, le principe, c'est que le chef de l'État doit être musulman pour appliquer la charia, comme je vous l'ai dit. Et c'est pourquoi il y a parfois, l'actualité nous le montre, des islamistes qui s'entraînent à leur chef, au chef de leur État, considérés comme impies ou traîtres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont accusés de mal appliquer la charia, pendant son intégrité, ou bien d'être les alliés de l'Occident impie, le grand Satan par exemple. Et vous venez sans doute que Anwar el-Sadat a été assassiné en grande partie parce qu'il avait signé un traité de paix avec Israël. Et pour les islamistes qui l'ont tué, c'était un péché capital. Le président Moubarak, qui a succédé à Sadat, est également lui aussi parfois victime de tentatives d'attentat parce que, à cause de son alliance avec l'Occident. On lui reproche sa soumission aux États-Unis. Alors je voudrais dire un mot sur la différence entre islam et islamisme, puisque j'ai parlé des islamistes. L'islamisme, en fait, pendant longtemps, le mot était... Il y avait un seul mot pour parler de la religion musulmane. On ne parlait que d'islamisme. Depuis une cinquantaine d'années, on distingue entre islam et islamisme. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, l'islamisme, je fais une définition très claire, très courte, l'islamisme, c'est la dimension idéologique de l'islam. Et je dirais aussi que l'islamisme, ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi l'islam. Je veux dire par là que l'islamisme n'est pas étranger à l'islam. On dit parfois que c'est une dérive, un accident de l'histoire. Eh bien non, l'islamisme prend sa source aussi dans le Coran et dans la Sunna, selon une interprétation particulièrement rigoriste, c'est vrai, qui recourt aussi à la violence, mais on ne peut pas dire, si on est rigoureux, que l'islamisme est étranger à l'islam. Certains disent même que c'est l'islam accompli, mais ça, bon, il s'agit d'interprétation. Je voudrais dire un mot de la Turquie, dans ce contexte géographique-là. La Turquie n'est pas une théocratie, bien sûr, et elle n'est pas considérée comme un État confessionnel. Et pourtant, je dirais que si. On parle souvent de la laïcité en Turquie, en général pour rassurer les Européens, dans la perspective de l'adhésion de ce pays à l'Union Européenne. Alors on parle du plus grand pays musulman laïque. Alors c'est vrai que Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, a instauré un régime différent de ceux des pays voisins. Et pourtant, la laïcité turque est bien différente de la laïcité telle qu'on la conçoit chez nous, en particulier en France. La laïcité turque n'est pas la neutralité religieuse de l'État. La religion est reconnue et elle est placée sous le contrôle de l'État. Or, quand on parle de la religion en Turquie, il s'agit de l'islam sunnite. Cet islam sunnite est un élément essentiel de l'identité turque. On parle de la turcité, donc qui associe l'ethnie turque à la religion musulmane sunnite. Je vais essayer de mieux me faire comprendre. En Turquie, il y a des musulmans qui ne sont pas sunnites. Ce sont les Alevis. Les Alevis sont une minorité dissidente du chiisme. Sur environ 75 millions d'habitants, les Alevis constituent 15 millions de personnes, ce qui n'est pas négligeable. Or, les Alevis ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale. Ils sont assimilés aux musulmans sunnites, vous voyez. Donc, ils n'ont pas de représentation. Et, vous voyez, je pense que je voulais vous montrer le lien qu'il y a entre l'ethnie et la religion. Donc, il est difficile de parler de laïcité, au sens où on entend chez nous, dans un pays où certaines parties de la population ne sont pas reconnues et ne participent pas aux affaires de l'État. C'est le cas des juifs et des chrétiens. En Turquie, il y a des juifs. Certes, les juifs sont reconnus par le traité de Lausanne de 1924, mais ils n'ont aucune participation aux affaires publiques. Et c'est pareil pour les chrétiens. Deux communautés chrétiennes sont reconnues, les Grecs et les Arméniens, mais elles n'ont pas de rôle dans les affaires de l'État et elles ne relèvent pas non plus de l'organisme public qui s'occupe de religion, organisme qu'on appelle la DNF. Il n'y a au gouvernement et au parlement, ni dans les hautes sphères de l'armée turque, aucun juif et aucun chrétien. Et puis il y a des chrétiens en Turquie, notamment les maronites et les assyro-chaldéens, qui ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale. Et on peut ajouter aussi les latins qui sont en Turquie depuis le XVIe siècle, grâce aux capitulations signées par Soliman le Magnifique et François Ier, eh bien, ces latins qui ont pourtant beaucoup apporté à la Turquie en matière de développement, d'hygiène, d'éducation, ne sont pas reconnus par l'État. Les papes, depuis des décennies, insistent auprès du gouvernement d'Ankara pour cette reconnaissance, mais il n'y a rien à faire jusqu'à présent. Or, il y a des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Ankara. Voilà pour cette question-là. Alors, dans un pays confessionnel, comme les pays à majorité musulmane, tels que je viens de vous les présenter, il faut s'interroger sur la situation des ressortissants non musulmans. Cette situation concerne avant tout ce que le Coran appelle les gens du livre, gens, G-E-N-S, du livre. Il s'agit de désigner par là les juifs et les chrétiens. Pourquoi est-ce que le Coran les désigne comme les gens du livre? C'est parce que du point de vue donc de l'islam, les uns et les autres, les juifs et les chrétiens, ont bénéficié d'écritures révélées, d'écritures célestes ou religions célestes, comme on peut lire dans le Coran. Cependant, le Coran accuse les juifs puis les chrétiens d'avoir falsifié leurs écritures, les juifs d'avoir falsifié la Torah, les chrétiens d'avoir falsifié l'évangile, d'où l'envoi du Coran, livre parfait, définitif, etc. Mais n'empêche que, à cause de ces écritures reconnues par le Coran, les juifs et les chrétiens bénéficient d'une certaine reconnaissance dans l'État islamique. Reconnaissance, mais vous allez voir, une reconnaissance conditionnelle. Alors aujourd'hui, on ne doit parler que des chrétiens dans cette partie du monde, puisqu'il n'y a pratiquement plus de juifs dans les pays du Proche-Orient, sauf un peu en Turquie. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les juifs sont partis soit en Israël, soit en Occident. Il y a une autre catégorie de ressortissants qu'on peut trouver dans ces pays. Ce sont les païens, et les païens, ce n'est pas péjoratif sous ma bouche, hein. Mais des païens du point de vue religieux. Bon, les bouddhistes, les hindouistes, ou alors les athées, en tout cas ceux qui n'ont pas de religion reconnue par le Coran, n'ont pas droit de citer dans l'État gouverné par l'islam. Alors je reviens aux gens du livre. Pour eux, leur situation relève d'un statut particulier qu'on appelle d'un néologisme la dhimmitude. D-H-I-2-M-I-T-U-D-E. Ce mot vient du mot arabe dhimmi, D-H-I-2-M-I, donc, qui littéralement parlant se traduit par protéger, ou dhimma, la protection. Personnellement, le mot dhimmitude, je préfère le traduire par protection, trait d'union, assujettissement. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il s'agit en fait, c'est vrai, ces juifs et ces chrétiens sont protégés, mais avec des contreparties qui en font des citoyens inégaux aux vrais croyants que sont les musulmans d'après le Coran. Donc, le Coran présente cette dhimmitude comme un pacte, mais c'est un pacte inégal. En droit français, il y a une catégorie qu'on appelle le pacte léonin, le contrat léonin, si vous voulez. Donc le plus fort qui impose sa volonté au plus faible. Avec la dhimmitude, on est exactement dans ce cas de figure d'un pacte ou d'un contrat léonin, avec une protection conditionnelle. Le cœur de ce statut de dhimmitude, on peut le résumer en un mot, c'est humiliation. Je vais vous citer le verset coranique qui fonde la dhimmitude. C'est dans la sourate 9, verset 29, où le Coran cite Dieu qui dit aux musulmans, combattez, deux points, ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, en Dieu du Coran bien entendu, hein, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète, donc Mahomet, ont déclaré illicite, ceux qui parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut après s'être humiliés. Vous voyez le tribut, un impôt spécial. Et de fait, pendant des siècles, les juifs et les chrétiens ont été assujettis à cet impôt spécial qu'on appelle la jizya. C'était les chefs de famille qui le payaient par tête d'homme. Non. Mais d'autres restrictions ont été imposées tout de suite aux Juifs et aux chrétiens, en particulier l'interdiction qui leur a été faite de participer au pouvoir politique. On ne leur fait pas confiance. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté là, mais dans le Coran, il y a un verset terrible qui dit, enfin, où Dieu dit, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens, ils sont alliés entre eux, et si vous les prenez pour alliés ou amis, vous deviendrez comme eux. Vous voyez, voilà la méfiance qui peut en découler. Heureusement, tous les musulmans ne prennent pas ce verset à la lettre, mais il existe quand même dans le Coran. Donc, il est interdit aux gens du livre de participer au pouvoir politique, et ils subissent toutes sortes de discriminations dans tous les domaines, y compris dans la vie quotidienne. Par exemple, pendant très longtemps, les chrétiens et les juifs n'avaient pas le droit de construire des immeubles plus hauts que ceux de leurs voisins musulmans. Des humiliations aussi du genre que le cheval était réservé, aux musulmans, alors que les chrétiens et les juifs devaient se contenter d'ânes pour circuler. Les juifs et les chrétiens devaient descendre du trottoir lorsqu'ils croisaient un musulman. Bien sûr, il y a aussi des restrictions dans le domaine du culte. Pendant très longtemps, les chrétiens, notamment, n'avaient pas le droit de construire des églises. Et puis, toute manifestation publique du culte était interdite. Pas de procession, par exemple, pas de sonnerie de cloche, bien entendu. Aujourd'hui, les choses changent un peu, mais je vais y revenir. Et puis, il y a une discrimination aussi qui est particulièrement douloureuse, c'est l'interdiction que le Coran fait à une musulmane d'épouser un non-musulman. Une musulmane n'a pas le droit d'épouser un juif ou un chrétien. Cette prescription se trouve dans la sourate 2, au verset 221 du Coran. Alors la raison, c'est que du point de vue musulman, la religion se transmet par le père. Donc si une musulmane épousait un juif ou un chrétien, on craindrait évidemment que les enfants ne soient juifs ou chrétiens. Alors concernant toutes ces dispositions qui ont été codifiées à plusieurs reprises dans l'histoire de l'islam, je n'entre pas dans les détails, tout ça est, si ça vous intéresse, dans mes livres qui vous seront présentés après. La divinitude a été abolie formellement sous l'Empire Ottoman, plutôt à la fin de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Les sultans ont pris des dispositions proclamant l'égalité de tous leurs sujets. Cette disposition a été prise sous la pression de l'Europe qui s'occupait de ce qu'on appelait l'homme malade de l'Europe, c'est-à-dire l'Empire Ottoman qui était sur son déclin. Mais malgré ces dispositions-là, qui étaient bien claires, dans les mentalités et dans les faits, la divinité est demeurée et elle demeure encore aujourd'hui. Voyez par exemple, en Égypte, il y a une disposition particulièrement douloureuse qui concerne les Coptes. Les Coptes qui sont enseignants n'ont pas le droit d'enseigner la langue arabe. Pourquoi ? C'est parce que c'est la langue du Coran. Donc seul un musulman peut enseigner la langue arabe. Pour des musulmans, enfin pas pour tous, mais pour certains, en tout cas, l'arabe c'est la langue de Dieu. Dieu parle en arabe. Voilà. Cette dimitude, elle a des conséquences assez redoutables que Mgr Sleiman, qui est l'actuel archevêque de Bagdad des Latins, a bien expliqué dans un livre que je vous recommande, un livre qui s'intitule « Dans le piège irakien ». Dans ce livre, Mgr Sleiman, qui est libanais lui-même, il explique comment beaucoup de chrétiens ont intériorisé la dimitude. Ils en ont fait comme une seconde nature, si vous voulez. Ils vivent en humiliés permanent et ça les conduit à des attitudes qui ne sont pas convenables, on pourrait dire, selon la morale chrétienne. Par exemple, ça les conduit à flatter le pouvoir en place pour avoir des avantages, vous voyez. Et c'est assez terrible. La dimitude, vous savez, c'est un atout majeur, je pense, entre les mains des pouvoirs musulmans. En fait, le but ultime de cette dimitude, c'est de pousser ceux qui y sont soumis à embrasser l'islam. Et de fait, dans un pays comme l'Égypte, où la dimitude est réelle, enfin, pratiquée dans la réalité, bien que ne soit pas prévue par la loi, eh bien, chaque année, il y a des centaines de Coptes qui se font musulmans, soit pour épouser une musulmane, soit pour avoir la vie tranquille, pour être traité à égalité avec leurs compatriotes musulmans. Et voyez, pour les musulmans, la dimitude est souvent présentée comme la preuve de la tolérance de l'islam. Mais là, le mot tolérance est un mot ambigu, sur lequel il faudrait s'expliquer à chaque fois qu'on le prononce. Enfin, je dirais que de notre point de vue, la dimitude est signifie le respect de l'autre. Du point de vue musulman, avec la tolérance, hein, le respect de l'autre, du point de vue musulman, la tolérance, on vous tolère, oui, mais, voyez, avec certaines limites. Alors, il y a, dans tout ce monde-là, il y a une exception tout à fait notable qu'il faut absolument, dont il faut prendre conscience, c'est celle du Liban. Le Liban vit sous un régime tout à fait différent de ceux de ses voisins. C'est le fameux confessionnalisme libanais. C'est vrai que la dimension confessionnelle, elle existe là comme ailleurs, mais le Liban n'a pas de religion d'État. L'islam n'y est pas religion d'État, alors que les musulmans sont majoritaires aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas lors de la création de ce pays en 1920. Alors le Liban vit sous un régime de démocratie consensuelle. Ce n'est pas une démocratie comme chez nous là non plus. Les majorités et les minorités ne dépendent pas des idéologies ou des partis politiques. Hein. Le système libanais associe toutes les communautés confessionnelles à la marche des affaires de l'État. Et il y a 18 communautés confessionnelles reconnues par la constitution libanaise. Et c'est grâce à ce confessionnalisme que l'on a du mal à comprendre chez nous que les chrétiens peuvent participer en plénitude à tous les niveaux à la marche de l'État et être les égaux de leurs compatriotes musulmans dans tous les domaines, dans la société en particulier. Alors au début de la guerre du Liban, Béchir Gemayel, qui avait formé la résistance chrétienne, justifiait la prise des armes par les maronites en particulier en disant ceci: nous nous battons pour pouvoir continuer de sonner nos cloches. Vous voyez, les chrétiens avaient la hantise de tomber en dimitude. Donc, ce système confessionnel, il faut bien comprendre qu'il protège les chrétiens. Pour donner une solution définitive au problème libanais, puisqu'il n'est pas sorti de ses difficultés, malheureusement, il faut éviter de tenir compte des données démographiques. Aujourd'hui, les musulmans sont majoritaires, on le sait bien. Mais si on tient compte de ces données, majorité-minorité, eh bien forcément, l'islam sera déclaré religion d'État et dominera toutes les autres populations du pays. Donc c'est une erreur, si on veut maintenir ce pays tel qu'il est, c'est une erreur de vouloir lui appliquer la laïcité à l'occidental. Hein, c'est vraiment contre la présence chrétienne. À ce sujet, je voudrais citer l'exemple des Palestiniens aussi, des Palestiniens chrétiens. Après les accords d'Oslo, vous savez, donc on a mis en place des institutions provisoires, l'autorité palestinienne, avec un gouvernement, qui est présidé par Mahmoud Abbas, comme vous le savez, et un parlement aussi. Alors, à ce moment-là, j'avais rencontré le patriarche latin de l'époque, Mgr Saba, Michel Saba, qui est lui-même de Nazareth. Il m'a expliqué que lors des premières élections législatives qui ont eu lieu en 1996, l'Union européenne était chargée de superviser le scrutin. Et alors, au nom de la démocratie telle qu'elle est conçue en Occident, on ne voulait pas confessionnaliser le scrutin. Mais les chrétiens, par la voix du patriarche Saba, ont demandé des quotas réservés aux chrétiens dans le futur Parlement. Ça a paru aberrant aux Européens, c'est vrai, mais en définitive, ils ont fini par accepter, si bien que les chrétiens de Palestine ont aujourd'hui 6 sièges sur 132, 6 sièges qui leur sont réservés. Ça leur permet au moins une présence minimale au Parlement. Cette disposition a été renouvelée lors des élections de 2005. Vous voyez, il faut bien prendre conscience aussi qu'en Orient, l'appartenance confessionnelle est première comme critère d'identité. On appartient avant tout à sa communauté confessionnelle. C'est pourquoi j'insiste un peu là-dessus, mais vouloir appliquer à tout prix la démocratie telle que nous l'entendons en Occident ne peut que aboutir à la victoire des islamistes aujourd'hui en raison de la réislamisation accélérée que l'on observe dans tout ce Proche-Orient, et y compris d'ailleurs en Turquie. Et je reviens à l'inadaptation du projet de Grand Moyen-Orient démocratique voulu par George Bush. De toute façon, ce projet, il était voué à l'échec, puisque venant de l'Occident, il est évident que le Proche-Orient ne pouvait pas accepter d'intégrer dans ses schémas de pensée un modèle qui ne vient pas de son sein, en quelque sorte. Alors, je dois vous dire quelques mots des clivages entre et des divisions au sein de l'islam. C'est vrai que c'est assez complexe. Alors, les deux grandes branches de l'islam, vous le savez, sont les sunnites et les chiites. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que je n'ai pas le temps de tout présenter, d'où vient ce clivage ? Ce n'est pas un clivage d'ordre religieux à l'origine, c'est un clivage d'ordre politique, de légitimité. Ce clivage est apparu quelques décennies après la mort de Mahomet. Mahomet est mort en 632 et il n'avait pas organisé sa succession. Or, il n'avait pas d'enfant mâle pour lui succéder. Alors, en gros, deux clans se sont opposés, ceux qui deviendront les sunnites et les chiites. On ne les appelait pas comme ça à l'époque, bien sûr. Le mot sunnite se rattache au mot sunna, dont j'ai parlé tout à l'heure, la tradition prophétique. Les sunnites étaient composés des premiers compagnons de Mahomet, et à ce titre-là, ils disaient que le califat, donc la succession de Mahomet, devait leur revenir. S'opposer à eux, ceux qui deviendront plus tard les chiites, qui vient du mot arabe shia, C-H-I-A, et qu'on traduit par être partisan d'eux. Être partisan de qui ? Eh bien d'Ali. Ali, le cousin germain et le gendre de Mahomet. Les partisans d'Ali disaient qu'il était légitime que les successeurs de Mahomet soient pris parmi sa famille, en fonction des liens du sang, donc, parce que sa famille, ayant donné au monde le prophète de Dieu, était donc bénie par Dieu. Et voilà. Alors, il y a eu des batailles sanglantes. La plus importante, celle qui fonde vraiment le chiisme, a eu lieu en 680, dans le sud de la Mésopotamie, à Najaf et Karbala. Et c'est là que le fils d'Ali, Hussein, a été assassiné par des sunnites. Et voilà donc l'origine de ce clivage qui est beaucoup plus important, je crois, que ce que l'on peut l'imaginer en Occident. Il y a quelques jours, je parlais avec un ministre libanais qui me disait, vous n'imaginez pas la haine qu'il y a entre les deux communautés au Liban aujourd'hui, puisqu'il y a des sunnites et des chiites. Alors, concernant les proportions, les sunnites sont aujourd'hui environ 90% du monde musulman, les chiites 7 à 8%, et il reste 2 ou 3% d'autres. Alors, ce sont des communautés dissidentes du chiisme. Parmi ces communautés, il y a les alévis, dont j'ai parlé pour la Turquie, mais les alaouites aussi et les druzes. Alors, les alaouites et les druzes sont donc deux communautés dissidentes du chiisme, leurs origines sont différentes. Enfin, pour les alaouites, on ne sait pas en fait, on ne sait presque rien sur la manière dont ils ont été, dont ils sont apparus. On pense qu'ils sont nés autour du 10e, 11e siècle, comme les druzes d'ailleurs. Très vite, ils se sont réfugiés dans les montagnes de Syrie, le long du littoral méditerranéen, la partie entre la Turquie et le Liban. Les alaouites pour fuir les persécutions, parce que évidemment, du point de vue sunnite et même chiite, les alaouites sont des hérétiques. Ils ont développé des doctrines ésotériques cachées, donc et syncrétistes, avec des emprunts à d'autres religions. Et c'est pareil pour les druzes. Mais alors les druzes, on en sait plus sur leurs origines. Ils ont été fondés au 11e siècle dans l'Égypte fatimide. Les fatimides, c'était une dynastie chiite qui régnait sur le Proche-Orient musulmans de l'époque, et des alternances, vous voyez, des dynasties chiites avec des dynasties sunnites. Donc à l'époque, 10e, 11e siècle, c'était des chiites qui s'appelaient fatimides à cause de Fatima, la fille de Mahomet. C'est, les druzes sont nés à ce moment-là à l'initiative d'un certain Darazi, d'où le nom de druze. Mais eux aussi ont été persécutés et se sont donc réfugiés dans les replis montagneux, eux, du Liban. Du Liban, un peu de Palestine aussi, notamment dans le Mont Carmel, près d'Haïfa, et dans certaines parties de la Syrie du Sud, le Oran notamment. Mais leur berceau est vraiment au Liban, dans les montagnes du Chouf, au sud-est de Beyrouth. Alors les druzes, eh bien, se sont organisés sous forme syncrétiste également, comme les alaouites, donc avec des emprunts à d'autres traditions, y compris des traditions d'Extrême-Orient. Il y a dans le druzisme des traditions empruntées à l'hindouisme, en particulier la réincarnation. Les druzes croient en la réincarnation. Pour les alaouites, ce n'est pas le cas. Une autre particularité, qui est valable pour les deux, c'est que ni les alaouites ni les druzes ne pratiquent la polygamie. Ils mangent facilement du porc et boivent du vin, même si avec des musulmans, ils ne le font pas. Mais une autre chose intéressante, c'est que le druidisme, ça c'est propre au druidisme, est organisé sous forme de caste, sans doute à l'emprunt à l'hindouisme. En fait, il y a deux castes chez les druides, il y a les ignorants et les initiés. Bon, les ignorants, c'est la majorité de la population, qui ne sont pas donc informés de leur doctrine, et les initiés, minorité, donc, qui est informée aux arcanes, aux secrets de la religion. Quand on a pu avoir des livres intéressants sur les druides qui ont été rapportés par des savants français, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, en particulier un certain Sylvestre de Sacy qui a fréquenté les druides. Et il a découvert que dans les livres des druides, on méprise Mahomet. Voyez. Alors ni chez les druides, ni chez les alaouites, il n'y a de mosquée traditionnellement. Aujourd'hui, il y en a, mais c'est simplement parce que les druides ont besoin d'être bien vu par les musulmans, et donc ils vont en finir d'avoir le statut d'hérétique et de renégat, voyez. Mais sinon, ça ne correspond pas à leur tradition. Alors, il y a cette longue lutte pour le pouvoir, pour la légitimité à la tête de la communauté des musulmans. La communauté des musulmans qu'on appelle Umma, O-U-2-M-A. D'ailleurs, l'étymologie du mot est intéressante. Le mot Umma vient de Umm, dans la racine Umm, qui veut dire mère ou matrice. Vous voyez, on encadre la communauté. L'individu dans l'islam, d'ailleurs, existe avant tout par son appartenance à l'Umma. Donc, ce conflit entre les deux grandes branches de l'islam perdure jusqu'à nos jours. Et actuellement, on assiste à un changement très important. Depuis la révolution de Khomeini en Iran, en 1979, les chiites, qui pendant des siècles donc, ont été soit marginalisés, soit persécutés, soit assimilés aux sunnites, comme c'était le cas au temps de l'Empire ottoman, pendant 400 ans, donc, eh bien, les chiites redressent la tête et revendiquent la légitimité du pouvoir à la tête de l'Umma. C'est vrai qu'ils sont minoritaires, mais n'empêche, ils estiment être les détenteurs légitimes de la succession de Mahomet. Et c'est ainsi que dans le sillage de la révolution iranienne, des chiites ont voulu prendre le pouvoir à la Mecque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'automne de 79, la révolution a eu lieu en février, des commandos chiites ont voulu s'emparer de la Mecque. Et ce sont des gendarmes français, le capitaine Baril notamment, qui ont défendu le pouvoir sunnite à la Mecque. Alors, pour la petite histoire, le capitaine Baril a été obligé de prononcer la profession de foi islamique, puisque la Mecque et Médine, les deux grands lieux saints de l'islam, ne sont accessibles qu'aux musulmans. Il fallait bien que le royaume montre aux autres musulmans qu'ils n'étaient pas en train de pactiser avec l'ennemi, bien sûr. Alors, dans le sillage de la révolution, on a vu apparaître le parti du Hezbollah au Liban. Hezbollah signifie le parti de Dieu, et qui avait pour but d'exporter la révolution iranienne au Liban. C'est un parti très puissant, vous le savez, avec des armes. Le Hezbollah aujourd'hui a plus d'armes que l'armée libanaise. C'est un véritable état dans l'état. Alors quel est le but du Hezbollah? Je vous dis en deux mots, pour que vous essayez de comprendre. Il y a régulièrement des conflits, des combats entre sunnites et chiites au Liban. Les chiites libanais, par le Hezbollah, ne veulent pas renverser l'ordre établi du pacte national de 1943 qui fonde le système libanais dont je vous ai un petit peu parlé. Ce qu'ils veulent en fait, c'est prendre la place des sunnites comme partenaires des chrétiens. C'est ça le but des chiites, vous voyez. Et voilà. Et aujourd'hui, il faut dire un mot aussi sur la situation en Irak. Les chiites irakiens étaient opprimés au temps de Saddam Hussein. Et aujourd'hui, enfin depuis 2003, depuis l'invasion américaine du pays, les chiites ont pris le pouvoir. Ils sont majoritaires en Irak, ils sont plus de 60% de la population. Et donc, pour eux, il est légitime qu'ils soient donc aux commandes du pays. L'invasion américaine leur a permis de reprendre le pouvoir. Et vous savez, c'est très important l'Irak pour tous les chiites du monde, puisque c'est là qu'est né le chiisme. Je vous ai parlé de la bataille de 680 avec le meurtre de Hussein. Et c'est là que sont des lieux saints importants pour les chiites du monde entier. Que dire encore? Ah oui, concernant le Hezbollah, vous savez, en 2006, il y a eu la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban. Vous vous souvenez peut-être, tout l'été 2006. Or, Israël n'a pas gagné cette guerre. Il ne l'a pas perdu complètement, bien sûr. Mais n'empêche qu'il ne l'a pas gagné. Et pour les chiites du Hezbollah, c'est un signe divin. Nasrallah, le chef du Hezbollah, Nasrallah veut dire d'ailleurs la victoire de Dieu. eh bien, a dit, nous avons remporté une victoire divine. Et cette victoire, enfin, cette semi-victoire, disons, sur Israël, a donné aux chiites du monde, dans le Proche-Orient, une aura extraordinaire. Les sunnites, en quelque sorte, se sont sentis vengés de ce qu'ils appellent les compromissions de leur pays envers Israël, leurs pays qui sont considérés comme se soumettant, notamment l'Égypte et la Jordanie, qui ont signé des traités de paix avec Israël. Donc le jeu du Hezbollah, il dépasse le cadre chiite. Le Hezbollah prétend défendre les intérêts des sunnites. Et c'est la raison pour laquelle le Hezbollah aussi est un allié du Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui gouverne à Gaza. Et l'Iran, d'ailleurs, finance et arme le Hamas. C'est un jeu subtil, vous voyez, qui est destiné pour les chiites à prendre la tête un jour ou l'autre de la communauté musulmane. Les chiites, vous le savez, ont une pratique terrible, c'est l'attentat suicide. C'est une pratique qui n'existait pas chez les sunnites et que même les sunnites désapprouvaient formellement. Or aujourd'hui, voyant l'efficacité, si on peut parler d'efficacité, de cette pratique, des sunnites ont repris à leur compte l'attentat suicide, on le voit dans les rangs du Hamas et de Al-Qaïda. Il y a même des femmes maintenant qui se font sauter en tuant. Je voudrais vous dire un mot de la politique des Alaouites aussi en Syrie. La Syrie est un pays à majorité musulmane sunnite qui est gouverné par des Alaouites depuis 1970. Or les Alaouites sont très très minoritaires. Ils sont considérés comme des hérétiques aux yeux des musulmans sunnites. Les Alaouites ont pris le pouvoir par la force, par un coup d'État. C'est la France d'ailleurs, je ne dirais pas qu'il les a aidés à prendre le pouvoir, bien sûr, mais c'est la France qui a sorti les Alaouites de leur situation de paria. Pendant le mandat français, entre 1920 et 1946 pour la Syrie, les Alaouites ont pu bénéficier de l'enseignement, de l'hygiène, ont pu entrer dans l'armée, c'était les troupes du Levant. La France s'appuyait sur les minorités pour contrer l'opposition sunnite qui ne voulait pas le mandat français. Et donc grâce à ça, les Alaouites se sont émancipés et petit à petit, ils en sont venus à prendre le pouvoir. Alors aujourd'hui, les Alaouites sont environ 10 à 12% de la population. Ils développent une politique très nataliste. Et bien sûr, ils tiennent le pays d'une main de fer. C'est un peu l'équivalent de ce que faisait Saddam Hussein en Irak, mais un peu moins sanguinaire tout de même. Mais voyez, les Alaouites redoutent le jour où la majorité sunnite reprendra le pouvoir. Et lorsqu'on va en Syrie, on sent dans les populations sunnites le désir de reprendre ce pouvoir qui, pour eux, est légitime. Et les Alaouites ne sont pas, à leurs yeux, légitimes. Alors, je voudrais dire encore un petit mot un peu surprenant dans ce contexte de conflit entre sunnites et chiites. Eh bien, aujourd'hui, il y a des États, je parle des États, pas des populations, mais des États arabo-sunnites qui comptent sur Israël pour les défendre d'éventuelles agressions chiites sur leur territoire. Voyez. Maintenant, je dois parler aussi un peu d'Israël, parce que la création d'Israël, on l'a mal perçue ici, mais elle a, à sa manière, contribué à reconfessionnaliser la région du Proche-Orient. L'État d'Israël est conçu comme un État confessionnel, bien sûr, puisque l'idéologie du sionisme, c'est un État juif pour les juifs. Et Israël est arrivé au Proche-Orient, est apparu au Proche-Orient, à un moment où certaines tendances faisaient la promotion de la laïcité à la française, plus ou moins, bien sûr. Il faut toujours modérer quand on parle de laïcité au Proche-Orient, mais disons que le modèle français attirait certaines élites de l'islam sunnite à ce moment-là. Et les chrétiens étaient bien sûr en première ligne pour la création des partis laïcisants. Parce que pour les chrétiens du Proche-Orient, de Syrie, de Liban, du Liban, d'Irak, etc., c'était le meilleur moyen d'en finir avec la limitude. Ces partis laïcisants devaient gommer les clivages confessionnels, voyez, et promouvoir l'individu comme chez nous. Or voilà qu'Israël arrive, et tout ce beau programme a été mis à mal par cette nouveauté, si bien que les partis laïcisants ont été très rapidement rattrapés par les partis islamistes qui d'ailleurs avaient été fondés dès 1928 notamment en Égypte avec les frères musulmans, et qui combattaient bien sûr les partis laïcisants. Alors voilà, donc Israël aujourd'hui reste un État, un corps étranger à la région. Il ne s'est pas levantinisé, je ne porte pas de jugement de valeur, bien entendu, mais voilà cette situation donc de reconfessionnalisation extrême qui se manifeste et qui va en s'accélérant. Alors dans l'État d'Israël, tout le monde n'est pas traité à égalité non plus, hein. On est pleinement citoyen que si on est juif. Il y a des citoyens arabes, vous le savez, qui sont chrétiens et musulmans, mais ils sont eux aussi victimes de discrimination de la part de l'État d'Israël. Israël, d'ailleurs, lorsque j'ai fait mes recherches pour préparer ma thèse c'était le Liban et son voisinage, je me suis rendu compte en fouillant les archives du Quai d'Orsay que depuis le début depuis l'apparition du mouvement sioniste, le projet d'Israël était de diviser le Proche-Orient en mini-États confessionnels pour légitimer, pour justifier son propre modèle, voyez. Et alors on voulait s'en prendre d'abord à des communautés particulièrement qui pouvaient être particulièrement attirées par ces modèles-là, en particulier les Maronites. Les Maronites ont été l'objet d'approches de la part d'Israël pour fonder un État maronite. Et pendant la guerre du Liban, ce projet a ressurgi. Maintenant, les Libanais se sont rendus compte que les Israéliens ne travaillaient pas forcément pour l'intérêt des Libanais et sont revenus de leurs illusions. Dans ce contexte-là, de diviser le Proche-Orient en mini-États confessionnels ou d'affaiblir le voisinage sunnite, qui était le voisinage immédiat, on a mis en place aussi en Israël, au temps de Ben Gurion, le premier ministre, ce qu'on a appelé la théorie de la périphérie. Donc il s'agissait pour Israël de s'allier avec des États musulmans mais non arabes, entre autres l'Iran et la Turquie, et les Kurdes aussi. Et c'est ainsi que le mouvement de résistance kurde a été financé et armé par Israël. Et en Turquie, vous savez qu'il y a une alliance entre la Turquie et Israël, qui perdure mais qui bat de l'aile ces derniers temps à cause de la réislamisation qui s'opère en Turquie. Avec l'Iran, c'était pareil, il y avait une alliance tacite qui a été maintenant complètement anéantie depuis la révolution de Roumanie. Et l'État d'Israël est de plus en plus vulnérable, surtout depuis la guerre de 2006, la guerre au Liban, donc qu'il n'a pas gagné. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que dans l'esprit de beaucoup de musulmans, Israël est illégitime. Pourquoi illégitime ? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure concernant les gens du livre. Beaucoup de musulmans se disent, mais il n'est pas normal que des juifs qui sont naturellement voués à la dignitude aient construit un État sur une terre d'islam. Ils ont pris une terre d'islam, terre islamisée. Donc tôt ou tard, il faudra bien que cet État disparaisse. Alors les États, les chefs d'État ne parlent pas comme ça, c'est vrai, à part l'Iran. Mais dans les opinions publiques, cet état d'esprit ne cesse de croître. J'en viens au dernier point que je voulais vous présenter. L'islam et la modernité. Alors, où en sont les musulmans du Proche-Orient par rapport à la modernité? Il faut dire que la géopolitique mondiale n'aide pas les musulmans à adhérer à ce que nous appelons, nous, la modernité. Les musulmans ressentent beaucoup d'humiliation à cause de la politique internationale, notamment la politique de deux poids, deux mesures. On tolère à Israël de violer toutes les résolutions des Nations Unies, et dès qu'un pays musulman contrevient à ces résolutions, il est automatiquement puni. C'est donc très mal ressenti dans le monde musulman, c'est une injustice. On considère l'Occident comme un monde cynique, hein, qui veut asservir les musulmans. Donc ça freine toute ouverture à la modernité, même s'il y a bien entendu des intellectuels qui font la promotion de la modernité. Mais en gros, l'Occident, avec ses modèles de société et d'organisation politique, est très largement rejeté. La modernité ne peut être acceptée que si elle vient de l'intérieur et non pas si elle est imposée de l'extérieur. Alors depuis, les choses se sont beaucoup accélérées à partir de la défaite arabe de 1967, après la guerre de six jours, la guerre israélo-arabe. Jusque-là, certains intellectuels disaient « nous devons moderniser l'islam ». Et aujourd'hui, la tendance est inversée, on parle d'islamiser la modernité. Vous voyez, non plus de moderniser l'islam, mais d'islamiser la modernité, c'est le mot d'ordre des islamistes. Alors, la situation est assez tragique, je dirais, pour le monde musulman, parce que depuis le Xe siècle, les pouvoirs islamiques ont fermé ce que l'on appelle la porte de l'ijtihad. Ijtihad, I-J-T-I-H-A-D. L'ijtihad, c'est l'interprétation innovatrice. Vous voyez, pendant les premiers siècles de l'islam, de l'histoire de l'islam, il y avait des débats, des fois, on foisonnait d'idées, on voulait notamment savoir s'il fallait considérer le Coran comme livre œuvre humaine ou comme livre venant directement de Dieu. Finalement, c'est la doctrine du Coran incréé, donc sans intervention humaine, mais venant directement de Dieu, qui s'est imposée à tous, et la porte de l'ijtihad, donc de l'interprétation, a été fermée. Et depuis lors, aucune autorité dans le monde musulman ne s'est cru autorisée à rouvrir cette fameuse porte de l'ijtihad. Il faut savoir aussi que dans le monde musulman sunnite, il n'y a pas de magistère, il n'y a pas d'autorité magistérielle unique, il n'y a pas l'équivalent d'un pape, si vous voulez. Donc toutes les tendances sont possibles, toutes les interprétations aussi, et elles sont très multiples. Alors c'est dans ce contexte-là, il y a encore des intellectuels qui essaient de repenser l'islam pour l'adapter à la modernité, mais vous voyez, ils se heurtent à bien des obstacles. Si bien que ne pouvant pas pratiquer ce qu'on appelle l'exégèse dans l'Église catholique, qui consiste à l'analyse critique des textes, eh bien ce que l'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam ne peuvent recourir qu'à la proposition de nouvelles lectures. Ils appellent ça des lectures vectorielles ou finalistes. Je vous donne juste un exemple concret. Pour la polygamie, par exemple, le Coran permet la polygamie, donc il permet alors d'avoir jusqu'à 4 femmes légitimes en même temps. Mais le verset suivant dit aux musulmans qu'ils doivent traiter leurs femmes à égalité, sur le plan affectif et sur le plan matériel. Puis un autre verset dit « mais vous ne le pourrez pas ». Alors, les nouveaux penseurs de l'islam qui veulent en finir avec la permission polygamique se basent sur ce dernier verset en disant « voilà, la véritable volonté de Dieu, c'est la monogamie ». Alors, ce sont des lectures finalistes ou vectorielles. Mais ces travaux ont bien des limites, en dehors du fait qu'il n'y a pas d'autorité magistérielle pour les encourager ou les cautionner. C'est qu'ils se heurtent au monopole de la pensée religieuse détenue par les instituts traditionnels dans ce domaine, que l'État ne les protège pas parce que souvent les gouvernants craignent d'être victimes du djihad, donc de la vindicte des islamistes qui voudraient les punir pour impiété. Et ils savent aussi, certains le disent, qu'ils peuvent être accusés d'innovation blâmable. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur ce sujet. Il y a un véritable blocage actuellement. Alors je voudrais juste dire en conclusion une réflexion concernant la place des chrétiens au Proche-Orient. Dans ce contexte si difficile que je viens de décrire, si complexe aussi, quelle est leur place ? La présence chrétienne, je dirais, est absolument indispensable à l'équilibre de la région. Leur position est unique par rapport aux juifs et aux musulmans. Les chrétiens aspirent à la Jérusalem céleste, mais comme ils sont membres de la religion de l'incarnation, bien sûr, ils mettent la main à la pâte et s'impliquent dans les affaires temporelles. Leur mission est de semer les valeurs du royaume de Dieu. Seulement, les chrétiens, normalement, n'aspirent pas à des états confessionnels. Il y a eu la tentation pour les maronites, comme je l'ai dit, sous l'influence israélienne, mais normalement, les chrétiens sont pour tout le monde. Donc, ils doivent semer des valeurs au bénéfice de tout le monde. Ils ne sont pas chrétiens pour eux seulement. Mais en même temps, cette présence dont tout le monde a besoin, elle dérange aussi tout le monde, parce qu'elle contredit justement les projets politico-temporels, religieux, qui sont véhiculés donc ailleurs. Alors, concernant la politique des grandes puissances, je dirais pour terminer que je regrette personnellement qu'on parle de protéger les minorités opprimées au Proche-Orient. Il n'y a pas que les minorités chrétiennes d'ailleurs, il y a les Kurdes aussi par exemple. Ça ne suffit pas. Pour moi, je pense qu'il faudrait que l'Occident prenne conscience de ce que les chrétiens, parce que j'ai parlé des chrétiens, peuvent apporter à leur région parce qu'ils sont chrétiens, en raison des valeurs qu'ils peuvent apporter au bénéfice de tous. Et c'est ça qu'il faudrait que les gouvernements occidentaux exigent de la part des régimes musulmans et de l'État d'Israël. Le respect des chrétiens et la promotion pour ce qu'ils peuvent apporter à ce monde. Sinon, le Proche-Orient va se retrouver sans chrétiens et dans un état de conflit encore plus important qu'aujourd'hui, entre musulmans et juifs. Voyez, je dis juste encore un mot. Vous savez, il ne faut pas croire que ce qui s'est passé aux origines entre musulmans et juifs n'est pas d'incidence aujourd'hui. Je pense là à la période de Médine, lorsque Mahomet a pris le pouvoir à Médine. Il a expulsé les tribus juives qui vivaient dans cette ville et il en a massacré d'autres. Ça a été atroce. Il est impensable de croire que ça n'ait pas laissé des traces dans l'inconscient des juifs et des musulmans par ailleurs. Vous voyez ? Voilà, je vous remercie.
Bon bien madame, je crois que vous avez non seulement appris beaucoup de choses, mais éclairci aussi beaucoup d'idées qui étaient sans doute, vous l'avez fait comprendre, inexactes. Vous avez ébauché des conclusions, indirectement aussi des perspectives d'avenir, qui ne sont pas nécessairement des plus rassurantes. Avec les questions que l'on se pose, vous avez été très clair, mais je vous en remercie parce que vous avez dit vraiment ce que vous pensiez, vous aviez une argumentation, c'est quelque chose de très solide que vous avez dit. On va en reparler peut-être un peu tout à l'heure, mais je voudrais d'abord donner la parole à la salle. Il y a certainement des questions qui se posent. Monsieur, vous êtes...
Je vous remercie de la clarté d'abord de votre exposé, vraiment très très clair, même si c'est complexe.
Et même si je suis enrhumé et handicapé.
Pourquoi vous avez choisi le Liban, Et pourquoi on a donné le Torah à l'époque du Liban et de la Syrie à la France